Bien, je vous remercie d'être venu. Nous allons entamer les dernières séances de l'année en début d'année, si j'ose dire, puisque dans cet après-midi, nous verrons une séquence temporelle qui forme une unité parfaite, c'est-à-dire le gouvernement de Shimon Peres, qui exerce immédiatement l'intérim de Rabin, qui était devenu dernièrement son ami. Alors, si on reconnaît à Shimon Peres une grande expérience de gestion des affaires de l'État, on lui fait porter avec injustice le fait qu'il n'a pas d'expérience militaire, au sens où il n'a jamais été un combattant dans l'armée israélienne, mais c'est à lui que l'armée israélienne doit son armement dans les années 1950 et 1960. Cet homme de 72 ans souffre aussi d'une réputation d'astuce, voire de magouille, et en même temps d'utopie, au moins dans le domaine économique. Tout cela le met en position de faiblesse par rapport à l'appareil militaro-sécuritaire. Il n'est pas dans la position d'être le monsieur sécurité qu'était Rabin. Donc il lui faut démontrer sa fermeté. Par exemple, dès le 13 novembre 1996, une base du FPCG, donc du Front de Libération Populaire Commandement Général, organisation dont la présence est nulle dans les territoires, est bombardée par l'aviation israélienne au Liban, faisant 2 morts et 8 blessés. Le premier geste d'annoncer la poursuite du redéploiement en Cisjordanie est la reprise des discussions avec l'autorité palestinienne. Le 12 novembre 1995, une manifestation de 200 000 personnes célèbre une nouvelle fois le héros de la paix, tandis que le lendemain s'achève l'évacuation de Jénine. Une fois les cérémonies officielles de deuil terminées, Peres peut s'atteler à la formation d'un nouveau gouvernement. L'usage veut évidemment qu'il fasse des consultations, mais l'unanimité de la classe politique le désigne comme Premier ministre. La question est de savoir s'il peut attirer dans sa majorité un ou des partis religieux. Plus fondamentalement, il faut tirer les leçons des derniers événements, c'est-à-dire choisir entre un affrontement entre le camp de la paix, très majoritairement laïque, et le camp nationaliste, qui s'appuie sur les religieux. La guerre culturelle regroupant ainsi partisans et adversaires du processus de paix, ou au contraire travailler à l'union nationale en espérant ainsi maintenir une dynamique en faveur de la paix. Peres ne s'exprime pas à ce sujet. Quand Beilin lui communique le document rédigé avec Abu Mazen, il se contente de marquer qu'il contient des éléments intéressants, ce qui signifie qu'il refuse la stratégie de conclure rapidement un accord sur le statut permanent afin de tenir en novembre 1996 des élections quasi-référendaires. Il trouve probablement que le document accorde beaucoup trop aux Palestiniens, un État et 96% de la Cisjordanie. Il reste dans sa perspective de laisser encore longtemps ouverte la question de l'avenir de la rive gauche du Jourdain. Sa première décision est de ne pas tenir immédiatement des élections, c'est-à-dire dans un délai de 3 mois. Il est sûr de les emporter, mais ce serait dans l'ombre de Rabin et non en fonction de ses mérites personnels. Cette perspective permet d'éclairer son choix initial, donner la priorité au volet syrien de la négociation. Il s'est mis d'accord sur ce point avec l'équipe américaine des négociations en marge des funérailles de Rabin. Rabinovitch, l'homme de Rabin, est dépossédé du dossier au profit de Rissavir, l'homme d'Oslo. Denys Ross en informe immédiatement les Syriens. Le prince Bandar apporte son soutien, enfin, le soutien de l'Arabie saoudite. Certes, le royaume n'est pas prêt à exercer des pressions sur la Syrie, mais il pourrait reconnaître Israël et établir des relations diplomatiques avec lui en cas de paix israélo-syrienne. Le 22 novembre, Peres annonce la formation de son gouvernement qui est dans la continuité du précédent, sans réussir à élargir la majorité. Comme son prédécesseur, il cumule la présidence du Conseil et le ministère de la Défense. Barak prend le ministère des Affaires étrangères. Beylin devient ministre sans portefeuille chargé de fait des négociations avec les partis religieux pour s'assurer au moins leur neutralité positive. Beylin avec Shahal, ministre de la Sécurité, Barak et Yossi Sarid, numéro 1 du Meretz, la gauche socialiste pacifiste, enfin en tout cas parti de la paix, formeront ensemble le comité interministériel créé pour gérer le processus de paix avec les Palestiniens et le reste du monde arabe. Le 23 novembre, le vote d'investiture lui donne 62 voix sur 120. Et il se présente comme voulant réconcilier la population israélienne. Il déclare comprendre le sentiment de détresse des 130 000 colons des territoires occupés. Damas accueille favorablement l'arrivée au pouvoir de Shimon Peres. Pour le ministre syrien des Affaires étrangères, Farouk el-Sharir, M. Peres est différent de Yitzhak Rabin en ce sens qu'il travaille réellement pour la paix. Mais on attend de lui des actes concrets. À la conférence euro-méditerranéenne de Barcelone, qui ouvre ses travaux le 27 novembre, l'atmosphère se révèle encourageante. Pour la première fois, Israël participe à une organisation régionale comprenant des pays arabes, signe supplémentaire d'intégration. L'autorité palestinienne fait partie des 12 pays méditerranéens, l'Algérie, Chypre, l'Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, Malte, le Maroc, la Syrie, la Tunisie et la Turquie, partenaires de l'Union. À son arrivée, Barak a expliqué clairement ses intentions à Javier Solana, ministre espagnol des Affaires étrangères. Je cite. « Mon nom est Ehud Barak et je veux être un jour Premier ministre d'Israël. Je ne peux pas retourner dans mon pays muni d'une déclaration qui comporte un paragraphe consacrant le principe « un territoire contre la paix » et reconnaissant le droit à l'autodétermination pour les Palestiniens. Il est inadmissible également d'évoquer la lutte armée du Hezbollah. Pour moi, il s'agit de terrorisme. » À la conférence, le ministre syrien des Affaires étrangères et le ministre israélien s'expriment de façon courtoise en rappelant les positions de leur gouvernement. Néanmoins, les deux pays s'opposent sur la rédaction de la déclaration finale, la Syrie insistant sur la distinction à faire entre terrorisme et résistance, ce qu'elle n'obtient pas. Israël tente d'éviter la mention de l'armement nucléaire, qui se trouve finalement englobé dans un ensemble plus vaste. L'État hébreu marque que ce n'est pas l'instance pour discuter de telles questions. En revanche, la formule adoptée pour le processus de paix va plutôt dans le sens des thèses arabes, je cite, « Les participants soutiennent le règlement juste, global et durable des conflits au Moyen-Orient en se fondant notamment sur les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. » Mais en même temps, le Hezbollah envoie deux volées de roquettes sur la Galilée présentées comme une riposte et un avertissement à la vaste guerre menée par l'État hébreu contre les villages et les civils du Liban Sud. Pour Uri Loubrani, le coordinateur israélien des affaires libanaises, Israël a respecté les arrangements de sécurité. Je cite, « Les coups très durs que nous avons infligés au Hezbollah ces derniers temps ne justifieraient pas la violation de ces arrangements. » Peres fait la tournée des régions nord d'Israël et prend un ton menaçant. Les règles du jeu doivent être changées. Les villageois du Liban Sud doivent se sentir moins en sécurité que maintenant. Il semble que les militaires israéliens, oubliant la vie presque posthume de Rabin, pour qui il n'y avait pas de solution militaire au Liban, appelle à une nouvelle opération de vaste envergure et que le nouveau Premier ministre a du mal à imposer son autorité. En Cisjordanie, à Kabatia, d'où l'armée israélienne s'est officiellement retirée, mais qui se trouve en zone B, une unité spéciale en civil de l'armée israélienne tente d'arrêter un activiste de l'intifada. La population réagit avec violence tandis que des renforts israéliens arrivent. 2 heures après le début des affrontements, un garde-frontière et un officier israélien qui rentrait chez eux à travers l'enclave de Jenin sont enlevés par un commando des Panthères noirs qui exige la levée du siège de Kabatia. Les forces de l'ordre négocient activement et les 2 Israéliens sont libérés tandis que l'activiste est livré à la police palestinienne. Chaque parti se félicite du règlement rapide de l'affaire. Au début de décembre, Denis Ross fait la navette entre Damas et Jérusalem. Son problème est de persuader chaque parti que l'autre est prêt à faire une avancée significative. Il présente à Assad ce qui est selon lui les besoins essentiels d'Israël. Une paix qui dépasse le cadre syrien pour s'étendre à l'ensemble du monde arabe, l'isolement et le discrédit de ceux qui utiliseraient la violence et la terreur contre Israël, des arrangements de sécurité crédibles, un investissement économique important dans la paix. Par exemple, le Golan pourrait devenir une zone commune de développement et enfin une mise en place d'un système efficace et rapide de négociation. Assad reconnaît que le moment semble particulièrement approprié pour et qu'il faut se saisir du fait que Peres est soit un leader doté de vision, d'imagination et de créativité. On est d'accord pour traiter ensemble les éléments clés que sont le retrait, les relations pacifiques normales, les arrangements de sécurité et les étapes de la mise en œuvre. Interrogé sur la question du Liban Sud, le président syrien convient que le Hezbollah est opposé à la paix. Il va même jusqu'à proposer un arrangement tacite pour arrêter la violence au Liban Sud pour la durée des négociations. Tout cela apparaît plus qu'encourageant à Ross et à Peres. Le premier ministre israélien se déclare prêt à reprendre l'engagement de Rabin sur un retrait du Golan qui avait été confié aux Américains, mais il veut un autre mode de fonctionnement. Il demande aussi aux Américains un traité formel d'alliance entre Israël et les États-Unis qui garantirait la sécurité et la capacité de dissuasion de l'État hébreu. Il voit le Moyen-Orient entrer dans une phase de coopération économique sous la tutelle des États-Unis, impulsant ainsi un développement rapide, une modernisation effective dans le cadre de l'initiative privée. Peres se rend aux États-Unis et s'entretient avec Clinton le 11 décembre. Ils se mettent d'accord sur les lignes essentielles. Une mise en œuvre progressive et méticuleuse d'Oslo 2 et en même temps une stratégie audacieuse envers la Syrie aboutissant à une paix au moins d'un an, ce qui mettrait fin au conflit israélo-arabe. Puis le président américain a une conversation téléphonique avec Assad pour lui annoncer que Christopher viendra au Moyen-Orient pour apporter de bonnes nouvelles. Devant le Congrès, le 12 décembre, Peres appelle Assad à saisir l'occasion historique d'instaurer une paix globale au Moyen-Orient. Le secrétaire d'État américain fait la navette entre Damas et Jérusalem à la mi-décembre. Assad s'étonne du fait que Peres ne cherche pas d'abord à avoir une solide majorité parlementaire, mais Christopher l'assure des bonnes intentions du premier ministre israélien, ce qui est compris à Damas comme étant l'engagement de revenir aux lignes du 4 juin 1967. La partie américaine développe un plan d'action en 10 points qui est compris par Damas comme étant une proposition israélienne. Le 16 décembre, Christopher, triomphant, peut annoncer la tenue de discussions israélo-syriennes à partir du 27 décembre à proximité de Washington. C'est une nouvelle période, dit-il, pour un nouveau départ avec de nouvelles règles du jeu. La différence d'approche essentielle entre Peres et Rabin, c'est que Rabin privilégiait une méthode graduelle, dossier après dossier, tandis que le second veut que l'on aborde tous les dossiers à la fois en profitant d'une dynamique favorable. Ainsi, il n'y a plus de préalable, comme le maintien d'une station israélienne de préalerte sur le territoire syrien. Cela sera discuté avec les autres éléments de la négociation. Pendant ce temps, l'armée israélienne opère son redéploiement en Cisjordanie. Le 13 décembre, Naplouse, qui est la troisième agglomération de Cisjordanie avec ses 130 000 habitants, est évacuée. Le problème essentiel est celui du maintien de l'ordre. Les milices se revendiquant du Fatah exercent une justice sommaire qui tourne parfois à la terreur et à l'extorsion de fonds. La police palestinienne investit la ville et les chefs de bande se rendent son combat. L'autorité palestinienne continue les discussions avec les représentants du Hamas tandis que l'on prépare les procédures électorales. Finalement, l'opposition islamiste et non islamiste annonce sa non-participation aux élections tout en s'engageant à ne pas s'y opposer. Ça, c'est un souvenir personnel parce que j'étais dans ces jours-là à l'université de Beer Zeit pour une conférence d'affaires palestiniennes. Et le dernier jour de la conférence, on attendait la délégation du Hamas parce que personne ne savait si le Hamas s'opposerait ou non aux élections. Et la délégation est arrivée, donc il nous a dit que le Hamas ne participerait pas aux élections, mais ne s'y opposerait pas, ce qui a provoqué un immense soupir de soulagement. Je crois que c'était la première fois où était énoncée la position du Hamas. En tout cas, à la mi-décembre, les listes électorales sont prêtes grâce à un porte-à-porte effectué par 7000 enseignants et Arafat peut déposer sa candidature. Avec l'accord des Israéliens, on est passé de 83 à 88 sièges pour le nombre de membres du Conseil palestinien. Le 21 décembre, l'armée israélienne évacue Bethléem à la grande joie de ses habitants, ce qui vous permet de voir ici Arafat assister à la messe de Noël, célébrée par le patriarche latin de Jérusalem. Le 27 décembre, c'est le tour de Ramallah, capitale économique de la Cisjordanie, destinée à devenir le siège de l'autorité palestinienne. Cinquante jours après la mort de Rabin, le 27 décembre 1995, s'ouvre dans un centre de conférence Highway Plantation dans le Maryland les pourparlers directs entre Syriens et Israéliens. Contrairement aux discussions de Washington, les délégations se trouvent isolées de la presse et l'équipe américaine menée par Dennis Ross a un statut égal à celui des deux autres. On dort sur place et on prend les repas en commun. On travaille par séquence du lundi au jeudi, suivi d'une pause définie par les trois jours fériés respectifs, chrétiens, musulmans et juifs, pour conférer avec son gouvernement. La règle du jeu est que rien n'est acquis tant qu'un accord global n'est pas trouvé. Les Syriens partent du postulat que les Israéliens ont accepté le principe du retour aux lignes du 4 juin 1967 et les deux autres partenaires ne le demandent pas. La question est donc renvoyée à l'étape finale. Clairement, chaque parti a bien l'intention d'arriver à un accord pour 1996. La première session, qui dure jusqu'au 5 janvier, se concentre sur la qualité de la paix, normalisation et coopération économique. La partie syrienne accepte le principe de relations diplomatiques ou d'ouverture des frontières. Elle est plus réticente en ce qui concerne l'ouverture des marchés, en raison même des déséquilibres de l'économie. L'économie syrienne est très étatisée, avec un fort protectionnisme, La disproportion est flagrante entre les 900 dollars de revenus par tête de la Syrie et les 15 000 dollars d'Israël. Les négociateurs israéliens ne se rendent pas compte que c'est toute l'économie politique du régime syrien qui est en cause et insistent sur la nécessité d'élaborer un programme détaillé des différents chapitres de la normalisation. Dans la perspective israélienne, une meilleure intégration de la Syrie au marché mondial serait un gage de paix. Plus le pays serait dans une interdépendance économique avec Israël et le reste du monde, moins il risquerait de remettre en cause l'accord conclu. Comme d'habitude, les responsables israéliens pensent à un financement extérieur de la paix, c'est-à-dire par les États-Unis et l'Union européenne, avec l'effacement des 7 milliards de dollars de dette de la Syrie par rapport aux pays occidentaux. On aborde aussi la question du calendrier de la mise en œuvre de l'accord. Les différentes étapes du retrait israélien se trouvent conditionnées à l'application progressive des mesures de normalisation. On s'accorde aussi sur le fait que la paix israélo-syrienne conduirait à une paix entre Israël et l'ensemble du monde arabe. Néanmoins, le front du Liban Sud est toujours extrêmement actif et avec des échanges de tirs qui conduisent à des tirs du Hezbollah sur la Galilée. Le problème est l'accord tacite de 1993 qui ne prévoit pas de contrôle extérieur. Et donc, on ne peut pas déterminer qui a tort ou qui a raison dans les accusations réciproques entre le Hezbollah et Israël. Le 1er janvier, Ehud Barak menace le Liban. Je cite, « Si Israël réagit militairement, ce sera contre le Liban et les victimes seront libanaises. Si le Hezbollah continue de nous provoquer, nous devrons prendre des mesures. » Le 5 janvier 1996, Yahya Hayash, l'artificier du Hamas, est assassiné dans la bande de Gaza, victime d'un téléphone portable piégé. Un de ses proches lui aurait transmis l'appareil avant de partir brusquement pour les États-Unis. Sans revendiquer l'opération, le gouvernement israélien se réjouit de la disparition de celui qui était considéré comme l'ennemi numéro un d'Israël, responsable à lui seul de la mort de 67 Israéliens dans des attentats suicides. Il était considéré comme un héros chez les Palestiniens, les mouvements islamistes appellent immédiatement à de terribles représailles. Les funérailles sont l'objet d'une très importante manifestation de masse, plus de 100 000 personnes pour une population inférieure à 1 million dans la bande de Gaza. Voilà les funérailles sur la photo. L'autorité palestinienne est très embarrassée de cette affaire qui se produit en pleine campagne électorale. Elle est prise entre deux feux. Les Israéliens l'accusent d'avoir toléré les activités de l'ingénieur et les islamistes d'avoir prêté main forte à l'assassinat. L'affaire révèle l'importance du réseau de complicité bâti dans la bande de Gaza par Israël et relance la chasse sanglante aux collaborateurs. De plus, l'opération israélienne met fin à la trêve tacite des attentats qui s'étaient installés depuis plusieurs mois. Le dernier attentat datant du 21 août. Pérez s'est laissé persuader par les responsables du complexe militaro-sécuritaire que Hayash représentait un danger majeur pour Israël et qu'il ne fallait pas craindre des réactions palestiniennes. L'argument majeur avait été qu'aurait dit l'opinion israélienne si après un attentat, on avait appris que Pérez avait refusé de liquider Hayash pour des raisons électoralistes. Immédiatement, Israël rétablit le bouclage des territoires palestinien. Pour les commentateurs politiques, la décision d'assassiner correspond à une volonté de redorer la réputation de Shin Bet, très entamée par de nombreuses lacunes de la protection de Rabin. Au-delà, Peres a voulu montrer qu'il était bien le successeur de Monsieur Sécurité. Dans son ensemble, la presse israélienne se félicite de cette élimination, tout en reconnaissant qu'elle renforce le poids politique du Hamas et qu'elle risque d'entraîner des représailles sanglantes. Le 9 janvier, la conférence ministérielle des pays donateurs se tient à Paris et se transforme en soutien massif à Yasser Arafat. Aux 500 millions de dollars déjà promis s'ajoutent 865 millions de nouveaux engagements. L'Union européenne arrive en tête des pays donateurs, 120 millions de dollars, suivie par l'Arabie saoudite, 100 millions, Banque mondiale, 90 millions, États-Unis, 71 millions et Japon, 53 millions. La plus grande partie doit être consacrée à la rénovation de l'infrastructure des territoires. Les 10 et 11 janvier, un millier de prisonniers palestiniens sont libérés par Israël conformément aux engagements pris. Mais en fait, il s'agit pour l'essentiel de travailleurs illégaux incapables de payer les lourdes amendes exigées d'eux pour être entrés en Israël sans permis. Ils sont ainsi emprisonnés chaque année pendant plusieurs mois. Donc ce ne sont pas des prisonniers politiques qui sont libérés. La campagne électorale palestinienne s'est effectuée dans une grande précipitation sous contrôle d'observateurs internationaux. La confection des listes électorales n'a pas posé de problème majeur, le Hamas ne s'étant pas opposé aux inscriptions. Le système électoral adopté est celui du scrutin majoritaire à un tour, aussi bien pour le président que pour les membres du Conseil. 16 circonscriptions au contenu démographique très différent ont été définies. La bande de Gaza a été favorisée en nombre de sièges par rapport à la Cisjordanie. 6 sièges sont réservés aux chrétiens, plus un siège pour les Samaritains, ce qui est bien supérieur à leur poids démographique, puisqu'il n'y a que 187 électeurs samaritains inscrits. Je vous rappelle que les Samaritains, ça vient de l'époque ancienne, le bon Samaritain de l'Évangile, et que la communauté samaritaine s'était pratiquement effacée. Au XIXe siècle, elle ne devait composer que 200 personnes à peu près. Et à l'époque, dans les années 1990, les Samaritains devaient s'élever à un demi-millier de personnes. Ils sont donc pris un peu entre deux feux, entre les Palestiniens et les Israéliens. Hanan Ashraoui avait demandé un quota de 30% de femmes, ce qui avait été refusé. Il n'y a que 27 candidatures féminines. La seule candidature concurrente à celle d'Arafat à la présidence est celle d'une femme, Samira Khalil, personnalité forte issue du milieu des ONG et des organisations caritatives, et plusieurs fois emprisonnée par les Israéliens. Les candidats peuvent se revendiquer d'entités partisanes ou être indépendants. On a finalement 169 appartenances partisanes contre 503 indépendants. Mais une bonne partie des indépendants sont en réalité issus de formations politiques. C'est le cas en particulier du Fatah, qui n'a pas réussi à former une liste unique de candidats. Le Hamas, après avoir hésité, s'est décidé pour l'abstention, nous l'avons vu. Néanmoins, plusieurs de ces cadres, dont Ismaïl Haniyeh, l'actuel chef du Hamas à Gaza, se sont fait enregistrer comme candidats indépendants, ce qui a provoqué des débats intenses dans le mouvement, et finalement, ils ont retiré leur candidature. Les candidats ont beaucoup de difficultés pour circuler. Il est pratiquement impossible de passer de Cisjordanie à la bande de Gaza et inversement, sauf pour quelques rares VIP. L'accès à la zone C est interdit de fait. À Jérusalem-Est, Israël entrave systématiquement la campagne électorale. Les rassemblements publics et les affichages sont prohibés. Des pressions considérables sont exercées sur la population. Les élections se déroulent le 20 janvier 1996. Sans incident majeur. Le choix d'un samedi s'expliquerait par la volonté d'éviter des manifestations des colons d'inspiration religieuse. Les observateurs internationaux, dont le plus illustre est l'ancien président Jimmy Carter, sont les garants de la régularité des opérations. Arafat a cherché à faire des élections à la fois un plébiscite de son action et un moyen d'ancrer l'autorité palestinienne dans la société des Palestiniens de l'intérieur. Il ne semble pas y avoir eu de fraude majeure. Les nombreuses erreurs dans le calcul des voix s'expliquant essentiellement par l'inexpérience et la précipitation du processus électoral. La participation est de l'ordre de 79,7% dans la bande de Gaza, de 67,4% en Cisjordanie et de 42% à Jérusalem-Est, ce qui donne une participation globale de 71,7%. Pour l'élection présidentielle, Arafat obtient 88,1% des voix. Les 53 élus issus des entités partisanes appartiennent à la mouvance du Fatah, mais comprennent des adversaires des accords d'Oslo. L'analyse factorielle montre que la principale clé d'explication des suffrages n'est pas la politisation, mais le régionalisme. On a accordé une préférence quasi exclusive aux candidats originaires de leur espace de solidarité constitué du quartier ou de la ville, du village ou du groupe du village, ou encore du camp de réfugiés. Dans un certain nombre de cas, on retrouve la carte des rassemblements pluriséculaires de la société rurale palestinienne. Cela démontre à la fois le maintien des solidarités traditionnelles, en dépit de la modernisation et des conflits, mais aussi le rôle actif de ces solidarités dans la résistance quotidienne à l'occupation. Ce ne sont pas les jeunes activistes de l'intifada qui ont été élus, mais des néo-notables qui cumulent à la fois une forte capacité indépendante d'influence locale et un accès à l'autorité qui leur permet d'utiliser cette capacité d'influence. La médiation politique joue dans les deux sens et l'appartenance partisane renforce la position locale. Ainsi, les grandes familles ou clans des Barouti, plusieurs milliers de membres, n'a pas élu un chef traditionnel de ce clan, mais Marwan el-Barouti, un ancien activiste du mouvement étudiant qui a été banni par Israël et qui est revenu avec Arafat pour devenir le responsable du Fatah en Cisjordanie. Il a battu son lointain cousin Mustafa al-Barouti, qui est lui aussi un jeune cadre politique qui a fait carrière dans les réseaux associatifs, mais qui, comme opposant à Arafat, ne pouvait pas procurer les faveurs du pouvoir central. Donc on est dans une logique de notable. Il faut à la fois avoir une base locale forte et en même temps une bonne position auprès du pouvoir. En même temps, l'intégration au corps électoral des paysans et surtout des réfugiés leur ont permis de s'affranchir du contrôle des autorités extérieures et de se doter de leurs propres notables. Arafat ne s'est pas trompé dans sa compréhension de la société palestinienne en désignant aux échelons supérieurs de l'autorité des membres des anciennes grandes familles et des clans qui n'ont pas réussi à passer l'épreuve des élections. La manipulation du localisme par Arafat permet de comprendre les réticences de l'opposition islamiste et marxisante à participer aux élections. Leur incapacité prévisible à obtenir des sièges se serait transformée en défaite de leur ligne politique, tandis qu'en s'abstenant, islamistes et marxistes conservent leur force politique de contestation des accords d'Oslo. Ce localisme des élections conduisant à désigner des personnalités dotées d'influence n'est pas une spécificité palestinienne. Il se retrouve dans les autres pays arabes du Proche-Orient ayant des élections plus ou moins contrôlées par le pouvoir, comme en Jordanie ou en Égypte. En Palestine comme dans ces pays, les élections opposant franchement des lignes politiques contrastées se déroulent dans les ordres et associations professionnelles et les organisations non gouvernementales. Les membres du Conseil palestinien font automatiquement partie du Conseil national palestinien, ce qui donne maintenant à Arafat une majorité dans l'instance principale de l'OLP. En accord avec Shimon Peres, il peut maintenant lancer une convocation du Parlement palestinien à Gaza avec la présence autorisée des grands opposants au processus de paix, comme George Habash, Naïef Awetmé, Ahmad Jibril, etc. L'objectif est, comme prévu, de modifier la charte palestinienne pour la rendre compatible avec les accords d'Oslo. La droite israélienne se mobilise contre le retour temporaire de ces assassins qu'elle compare avec Eichmann. La seconde session des discussions de White Plantation commence le 24 janvier. On y aborde les questions difficiles en présence des militaires des deux pays. Comme on pouvait s'y attendre, la partie israélienne reprend sa revendication d'une limitation de la présence armée syrienne allant jusqu'à Damas, ce qui est inacceptable pour le régime syrien, qui voit une remise en cause de sa propre sécurité. Néanmoins, on évoque une solution pragmatique. Seules des divisions de réserve pourraient être déployées à l'ouest de la capitale syrienne. Mais Peres semble s'orienter vers des élections anticipées et son ministre des Affaires étrangères, Ehud Barak, prend des distances avec les négociations syriennes en remettant en cause les paramètres. Une paix globale avec le monde arabe et la possibilité même d'obtenir une paix avec la Syrie en 1996. Barak incarne les réticences du complexe militaro-sécuritaire à changer le statu quo territorial. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Peres se penche finalement pour des élections, se trouver en position de force afin d'imposer les risques de la paix. Quand Christopher se rend à White Plantation le 29 janvier, il sait que Peres a choisi l'option d'élection anticipée et il en informe discrètement la partie syrienne qui se sent trahie. Les Américains tentent de limiter les dégâts en minimisant l'importance du retard pris. Au début février, le secrétaire d'État fait une nouvelle tournée au Proche-Orient. Peres lui affirme que seule l'acceptation par Assad d'un sommet avec lui permettrait de retarder la décision. Mais le président syrien considère qu'on se moque de lui. Il a fait toute une série de concessions en acceptant les discussions de White Plantation et les paramètres proposés par Peres. Encore une fois, il a cédé sur ses principes sans rien obtenir en échange. Il n'est pas question que l'on puisse tenir un sommet sans avoir au préalable réglé l'essentiel des problèmes, la rencontre servant à aborder les derniers points de désaccord. Néanmoins, il accepte une troisième session à White Plantation à partir du 28 février. Pour mieux comprendre l'évolution de la situation diplomatique, il faut saisir le facteur turc. La Turquie a été le premier pays musulman à reconnaître l'État d'Israël et à entretenir des relations diplomatiques avec lui, mais pendant longtemps au niveau de chargé d'affaires afin de ne pas trop provoquer les pays arabes. À partir des années 1950, les deux pays ont noué des relations commerciales importantes ainsi qu'une sorte d'alliance informelle dans le cadre de la stratégie dite périphérique définie par Ben Gurion. Après 1973, la Turquie a été soumise à de très fortes pressions des pays arabes pétroliers pour soutenir la cause palestinienne, qui par ailleurs était très populaire dans l'opinion publique. Elle s'est posée comme entretenant des relations entre les deux parties, reconnaissant par exemple l'État de Palestine en 1988. Elle a profité du processus de Madrid pour établir des relations avec Israël au niveau des ambassadeurs. Outre les questions géopolitiques régionales et la coopération dans l'armement et le renseignement, la Turquie a demandé le soutien des groupes de pression pro-israéliens à Washington, en particulier en ce qui concerne la reconnaissance du génocide arménien de 1915. Donc, la Turquie a demandé aux amis d'Israël à Washington de s'opposer à un acte du Congrès reconnaissant le génocide arménien. Parce que, de toute façon, le gouvernement américain est hostile à une telle reconnaissance pour des raisons stratégiques. Plusieurs contentieux majeurs opposent la Turquie et la Syrie. Damas n'a jamais reconnu l'annexion du Sanjak d'Alexandrette par la Turquie en 1939 et les grands travaux d'aménagement hydraulique de l'Anatolie menacent l'approvisionnement en eau de l'Euphrate dans son passage en Syrie. Le régime syrien apporte un soutien constant aux Kurdes indépendantistes du PKK qui mènent une révolte sanglante contre la domination kurde. Dans ce contexte, le rôle clé que joue Damas dans le règlement du conflit israélo-arabe inquiète Ankara, qui craint de plus que l'on propose à la Syrie une part plus importante des eaux anatoliennes en compensation de l'alimentation, enfin d'affectation des ressources en eau du Golan à Israël. L'État hébreu a beau démentir des projets de ce genre, des projets de ce genre sont bien envisagés dans le cadre du partenariat économique du Moyen-Orient, dans le cadre du processus de paix. Les inquiétudes turques ont été avivées par l'ouverture des discussions de White Plantation. La Syrie pourrait trayer de la liste soutenant le terrorisme tout en continuant de soutenir le PKK. Les militaires turcs forcent le gouvernement civil dirigé par les islamistes à intensifier les relations avec Israël. La Turquie pourrait aussi obtenir sans restriction de l'armement moderne et le soutien des groupes de pression pro-israéliens à Washington. Des négociations secrètes et intensives ont lieu au début de l'année 1996 qui conduisent à la conclusion d'un accord de coopération militaire entre Israël et la Turquie le 23 février 1996. Il prévoit des exercices communs d'entraînement, des échanges entre les académies militaires, l'usage réciproque des espaces aériens et des visites des ports. Pour Israël, la clause des aériennes est importante parce que le territoire israélien est trop petit et les avions de combat israéliens sont trop rapides pour pouvoir faire des manœuvres de longue durée sans traverser l'espace aérien des pays voisins. Donc Israël a besoin d'entraîner ses pilotes à des vols dépassant quelques minutes dans des pays alliés. Donc dans cette période, ça va être la Turquie. Aujourd'hui, comme vous savez, Israël est brouillé avec la Turquie. C'est la Grèce qui a ouvert son espace aérien à l'aviation israélienne pour effectuer son entraînement. Cet accord soutenu publiquement par les États-Unis provoque l'indignation de la Syrie qui se considère prise à revers et de l'ensemble du monde arabe à l'exception de la Jordanie. Le 12 février, après avoir comme il se doit consulté l'opposition, Peres annonce des élections anticipées pour le 28 mai. Les sondages promettent une large victoire pour les travaillistes. Le Premier ministre veut transformer les élections en référendum sur le processus de paix. Alors, Ehud Olmert et Netanyahou, Ehud Olmert est à l'époque maire de Jérusalem, entament la campagne électorale en accusant Peres de vouloir diviser Jérusalem et en saisissant du document Beilin Abou Mazen, ce qui prend par surprise les travaillistes qui pensaient qu'on les accuserait de vouloir livrer le Golan à la Syrie. Donc, à cette date-là, à mi-février, tout semble aller très bien pour le gouvernement Peres qui paraît sûr de remporter les élections d'après ce qu'indiquent les sondages. Mais après 6 mois d'accalmie, le 24 février, un premier attentat suicide fait sauter un bus rempli de monde en plein cœur de Jérusalem. Les scènes de désolation sont terribles. Des corps projetés sur un rayon de 100 mètres, des membres éparpillés sur les territoires. Quelques minutes après, un second attentat suicide frappe un groupe de soldats près d'Ashkelon, une ville située à une dizaine de kilomètres au nord de la bande de Gaza. Le bilan est de 27 morts, dont les deux auteurs de l'attentat, et de 80 blessés. Le double attentat est revendiqué par la brigade Yahya Ayash du Hamas. Les responsables de l'opération ont laissé passer les 40 jours de deuil et la fin du bouclage des territoires palestiniens. Il semble que tout ait été organisé par la branche armée du Hamas en Cisjordanie, sans aucune coordination avec la direction politique à Gaza. Cette dernière dément toute implication et souligne son attachement à l'accord conclu avec l'autorité palestinienne. Pour des raisons évidentes de sécurité, les réseaux du Hamas sont très cloisonnés et la branche cisjordanienne communique difficilement avec Gaza, d'où le fait qu'elle agit de façon autonome. La cacophonie est d'autant plus grande que la direction du Hamas propose une trêve contre la libération de ses militants emprisonnés et l'arrêt des assassinats ciblés. Sinon, il reprendra les attentats à partir du 8 mars. Ehud Barak exclut toute négociation avec des cellules terroristes qui opèrent à l'intérieur des territoires autonomes, car cela exempterait l'autorité palestinienne de ses responsabilités. Peres ferme de nouveau les territoires et exige d'Arafat de nouvelles mesures contre les terroristes. On lui soumet une liste de noms de personnes arrêtées. S'il ne fait rien, Israël s'en occupera directement. Arafat fait procéder à plusieurs centaines d'arrestations qui sont autant de protections pour les intéressés. Les autres responsables islamistes passent dans la clandestinité. On parle d'un désarmement forcé de la population palestinienne. L'enquête révèle ensuite que les deux exécutants présumés de l'attentat ne venaient pas d'une zone contrôlée par l'autorité palestinienne, mais d'un secteur sous occupation militaire israélienne près d'Hébron. Cela pose la question de l'émiettement de l'espace palestinien en zone A, B et C, qui rend difficile le contrôle sécuritaire. Le ton des entretiens avec Arafat et ses partenaires israéliens devient orageux. Ils rejettent l'essentiel de leurs exigences. Il n'est pas responsable de la sécurité ni à Hébron ni à Jérusalem, encore moins à Ashkelon. Même si ses partenaires de paix sont en période électorale, ce n'est pas lui de régler l'addition politique des attentats. Et il rappelle que le bouclage des territoires sape l'économie palestinienne et donc, par conséquent, le processus de paix. Du fait des attentats, le Likoud remonte dans les sondages et fait maintenant jeu égal avec le Parti travailliste. David Levy, qui avait fait un moment scission du Likoud, a accepté de faire liste commune, ce qui renforce la position du Likoud dans l'électorat séfarade. Netanyahou affirme que s'il est élu, il espérait ne jamais avoir à rencontrer le chef de l'autorité palestinienne. En revanche, dit-il, le cadre de processus de paix continuera avec prudence, selon le principe d'autonomie limitée accordé aux Palestiniens par les accords de Camp David. Il est pour une séparation entre les zones autonomes palestiniennes et israéliennes. Je cite, « Les Arabes doivent vivre dans des zones de population bien définies, étant entendu que la sécurité globale des territoires resterait entre nos mains. S'il est élu, il donnerait, si nécessaire et en violation des accords conclus jusqu'alors, la permission à l'armée d'opérer dans les enclaves autonomes. Pour le reste, la construction dans les colonies existantes reprendrait de plus belle et peut-être même dans les zones non autonomes. » Le samedi 2 mars, pratiquement au même endroit à Jérusalem et à la même heure que la fois précédente, un nouvel attentat fait 19 tués et 10 blessés. La communauté internationale condamne unanimement les attentats et appelle à la poursuite du processus de paix. Peres a affronté la colère populaire en effectuant une visite éclair au lieu de l'attentat. Le gouvernement israélien décide d'établir un grillage de sécurité isolant la Cisjordanie. Netanyahou critique ce projet, je cite, « Ce qui est nécessaire, ce n'est pas tant une barrière de séparation, mais une liberté de manœuvre pour nos forces de l'autre côté de la barrière. » Fin de citation. Peres déclare une guerre totale au Hamas. Il est fermement décidé, dit-il, à détruire cette organisation jusque dans ses fondements. Et il ne reculera devant rien pour parvenir à cet objectif. Il lance un sévère avertissement à Yasser Arafat. Si les données sont telles qu'elles sont aujourd'hui, il n'y a aucun intérêt à engager les négociations avec les Palestiniens. Arafat annonce la mise hors de la loi des groupes armés. L'attentat est toujours revendiqué par la brigade Ayash qui annonce l'arrêt des opérations afin, je cite, de donner la possibilité au gouvernement israélien et à la direction politique du Hamas de parvenir à un cessez-le-feu via l'autorité palestinienne. La contradiction entre les différents communiqués du Hamas laisse supposer que la branche cisjordanienne ne suit pas la voie plus conciliante de la direction politique de Gaza. C'est ce que cette dernière explique à l'autorité palestinienne. Une nouvelle fois, l'auteur de l'attentat viendrait de Hébron. Pour certains, la direction extérieure à Damas inspirerait cette ligne plus radicale et se trouverait ainsi en bonne entente avec les Iraniens, inquiets des progrès des négociations entre la Syrie et Israël. Il est vrai que le vice-président iranien s'est rendu à Damas le 27 février et que, outre ses entretiens avec les responsables politiques syriens, il a rencontré une délégation du Hezbollah ainsi que celle des opposants palestiniens au processus de paix, comprenant un représentant du Hamas et le secrétaire général du djihad islamique. Avec les Israéliens, la controverse porte aussi sur la responsabilité de la crise. Yahya Hayash était devenu une sorte de Robin des Bois pour l'opinion publique palestinienne, indifférente envers les morts israéliens, compte tenu du plus grand nombre de victimes dans ses rangs. Pour Nabil Shart, je cite, « Son assassinat fut une expérience quasi traumatisante pour l'opinion palestinienne. Nous avions garanti la sécurité de ces personnes, nous avions obtenu d'Israël l'assurance absolue qu'aussi longtemps que la trêve des attentats existerait, ces services ne toucheraient pas un de leurs cheveux. » Fin de citation. L'assassinat est la cause de la rupture de la trêve, ce que refusent d'admettre les Israéliens. De même, ils ne veulent pas reconnaître la vanité des assassinats ciblés, qui n'ont jamais arrêté une vague de violence et qui, au contraire, en général, les suscitent. Dans son souci d'exonérer le Hamas et l'autorité palestinienne de l'accusation portée contre eux, le même Nabil Shart accuse l'extérieur d'être les instigateurs des attentats, mais il pointe aussi vers la Jordanie. Je cite, « Les trois derniers attentats anti-israéliens sont le fait des cellules Ras Eddin el-Qassam d'Hébron, région qui n'est pas sous notre juridiction. Ces gens sont des renégats coupés aussi bien du leadership politique que de la direction militaire intérieure de leur mouvement. Les chefs politiques intérieurs du mouvement et du djihad islamique nous affirment, et je pense que c'est vrai, qu'ils n'ont aucune autorité sur ces groupes armés. Au fil des mois, nous avons effectivement constaté que les ordres lancés viennent toujours de l'extérieur. D'où ? De Jordanie et de Syrie. En Jordanie, vous avez la direction historique du Hamas. En Syrie et au Liban, il y a l'aile militante la plus dure. La connexion iranienne, Téhéran a une très grande influence sur ces gens, passe par Amman. Je n'accuse pas la Jordanie, mais pourquoi sommes-nous accusés de ne pas nous en prendre à l'infrastructure du Hamas ? Si des gens en Jordanie ont le droit d'opérer et de donner des ordres, pourquoi sommes-nous toujours désignés comme bouc émissaire ? Fin de citation. Le même 27 février, s'est ouverte la troisième session de White Plantation. Il y a peu d'espoir de progrès en raison de la situation en Israël et des échantements syriens par rapport aux négociations. Les Syriens proposent la constitution de groupes de travail sur différents sujets, dont la délimitation des frontières. Savir fait comprendre que l'expression « ligne du 4 juin 67 » doit être sujette à interprétation. L'attentat du 2 mars a mené la suspension d'un jour. Israéliens et Américains demandent une condamnation publique des attentats de la part de Damas, ce qui est contraire à la position syrienne de la légitimité de la violence dans une situation d'occupation. On se réunit dans ce domicile, les deux chefs de délégation, le 3 mars. À son interlocuteur syrien, il explique que l'administration Clinton redoute que les Iraniens utilisent la Syrie comme intermédiaire pour faire passer au Hamas l'instruction de procéder à l'escalade terroriste contre Israël. Le Syrien exige des preuves. Le même 3 mars, compte tenu du décalage horaire, un nouvel attentat frappe Jérusalem, puis le 4 mars, c'est Tel Aviv qui atteint avec la mort de plusieurs enfants célébrant la fête juive de Pourim. On est à 60 morts en 9 jours. Une grande confusion règne dans les revendications des attentats. Celui de Tel Aviv est revendiqué par le djihad islamique en représailles de l'assassinat de son chef. On suppose l'existence d'une cellule clandestine du Hamas à Jérusalem, ce qui lui permet de contourner le bouclage. En tout cas, la branche militaire du Hamas annonce une trêve. Quelques heures après, les brigades Yahya Hayash annoncent qu'elles respecteront cette décision et qu'elles ne pourront plus dorénavant être tenues pour responsables des actions conduites à l'intérieur de l'entité sioniste. Des ratissages systématiques ont lieu dans les camps palestiniens proches de Hébron. Les maisons des familles des auteurs présumés des attentats sont détruites. On envisage même l'expulsion des familles concernées hors de Palestine, mais aucun pays n'accepte de les recevoir. À Hébron, l'armée israélienne ferme les institutions caritatives islamiques soupçonnées d'appartenir à la mouvance du Hamas. Les entrées des bâtiments se trouvent murées. Des chars israéliens sont massés en Cisjordanie à proximité des enclaves autonomes. En règle générale, les sanctions collectives ne font que renforcer la détermination des mouvements responsables des attentats, puisque cela leur donne la légitimité de les entreprendre, selon la logique perverse des représailles, des représailles, des représailles, etc. Le même 4 mars, le Hezbollah inflige de lourdes pertes israéliennes dans la zone de sécurité, tuant 4 soldats israéliens, dont un colonel. Il n'y a pas eu de coordination avec les mouvements palestiniens, mais volonté d'accentuer la pression. Une semaine après, le Sher el-Qassem, redonné Hezbollah, explique la stratégie de la résistance islamique. Je cite. « Nous sommes disposés à offrir toutes les facilités nécessaires à ceux qui résistent contre Israël. Notre aide se fait à travers notre influence et notre efficacité sur le terrain. Le principe de la collaboration active avec le Hamas existe, mais il est limité par le facteur géographique. Car Hamas concentre sa lutte à l'intérieur de la Palestine, alors que le champ d'action de Hezbollah est situé au Liban Sud et dans la Beka Ouest. Nous nous attendons à des frappes ponctuelles, mais meurtrières, et pas à une attaque d'envergure qui risquerait de mettre en péril le dit processus de paix. De plus, il n'est pas question pour Israël de torpiller l'accord de juillet, car dans ce cas, il serait le plus grand perdant. Est-il en mesure d'assumer la mort de plusieurs Israéliens en Galilée, alors que le sang des tués de Jérusalem et de Tel Aviv n'a pas encore séché ? Dans cette situation, Peres rappelle la délégation israélienne du Maryland, mettant fin aux négociations israélo-syriennes, bien que l'on pense alors qu'il ne s'agit que d'une simple suspension. De l'aveu de Dennis Ross, une condamnation publique de la part de Hamas n'aurait rien changé. Peres n'a simplement plus la base politique nécessaire pour agir. Le Likoud est maintenant en tête dans les sondages. Alors, plein de suspense, 5 minutes de pause et la suite.